L'année 2014,
la culture joue un rôle très particulier.
Vu par la culture.
Culture.
Ça a la forme d'un cône sur un piédestal. Et puis, cela a une forme qui rappelle aussi un sextoy.
Et puis, ce sera sexuel. Ce sera dans le rendez-vous spécial Forum l'année vue par la culture. Ce soir, diffusion de la dernière table ronde enregistrée en public à l'auditorium du musée d'Orsay le samedi 6 décembre. Il sera question de plug, de nudité, de SAD et même du lac des cygnes. Tout de suite, direction le musée d'Orsay pour y retrouver nos invités. Dernière table ronde avec un sujet qu'on a choisi avec Manou Farine à mes côtés. Avec un énoncé, tant qu'il y aura du sexe, la dernière cause des artistes. Alors pour en parler, avec nous Catherine Millet, critique d'art, écrivaine, directrice de publication de la revue Art Press, auteur notamment bien sûr de La vie sexuelle de Catherine M, un texte autobiographique en 2001, dans lequel vous entrepreniez le récit détaillé de vos expériences sexuelles. Et puis dernièrement, vous avez publié avec gros succès Une enfance de rêve, Manou.
À vos côtés, Catherine Millet et Olivier Dubois, danseur, chorégraphe, directeur du Ballet du Nord, Centre chorégraphique national de Roubaix, Nord-Pas-de-Calais, voilà, je l'ai dit en entier, auteur notamment d'une pièce qui a marqué la scène chorégraphique contemporaine, Tragédie, une pièce pour 18 danseurs nus intégrales. Et à vos côtés encore, Elisabeth Roudinesco, historienne de la psychanalyse, biographe de Jacques Lacan, tout récemment de Sigmund Freud, un ouvrage qui a d'ailleurs reçu le prix décembre cette année.
Quand vous commencez cette pièce, Olivier Dubois, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? 18 danseurs nus intégrales, qu'est-ce que vous vouliez dire ?
Mais en fait, je pense que j'ai une maturation qui est très lente. Je n'arrive pas en me disant, ben voilà, je vais faire une pièce avec 18 danseurs nus, pas du tout. Je crois que c'est venu il y a très 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 longtemps avec, je pense aussi ce qu'il faut expliquer, Tragédie, c'est le troisième volet d'une trilogie qui avait commencé avec Révolution en 2009, Rouge, donc Révolution, une pièce pour 15 femmes avec, qui dure 2h15, rotation autour du boléro comme ça.
Du boléro de Ravel.
Et ensuite Rouge qui est un solo et enfin Tragédie. Et c'est une session, ça s'appelle l'étude critique pour un trompe-l'œil qui est une tentative de sensation du monde. À travers des notions de résistance, de vocifération et peut-être d'un concept, d'un idéal, d'une idée d'humanité. Et donc, Tragédie est le troisième volet. Donc, il a commencé déjà, on se dirait, depuis 2008 ou 2007. Et vraiment, la nudité, par exemple, est un élément évidemment essentiel à la pièce, mais qui n'est pas absolument un starter, qui n'est pas l'origine, le départ. Et c'était pour Tragédie, là, que j'appelle comme un poème chorégraphique, parce que c'est écrit sous cette forme-là, et c'est une tentative de sensation du monde, de donner, je ne pouvais pas dire, c'est ça, ça serait ça, le monde, l'humanité, ou je ne sais pas, c'est impossible. En revanche, ce que je peux, c'est déclencher votre propre sensation intime d'humanité, du monde, de vision du monde, d'approche du monde, de rapport au monde. Et la nudité, là, est la clé. Parce que quand vous regardez un corps nu, c'est souvent le vôtre que vous êtes en train de regarder.
Alors on reviendra un peu plus longtemps tout à l'heure sur le contexte même qui a accompagné cette pièce. On a longtemps réfléchi au titre possible pour cette table ronde, c'était pas facile. Au final donc, c'est « Tant qu'il y aura du sexe, la dernière cause des artistes, point d'interrogation ». Alors peut-être un commentaire sur cette formulation, ça veut dire, est-ce que ça voudrait dire que le sexe serait encore une cause pour les artistes ? Et quand on parle de cause, est-ce qu'il faudrait lutter pour cette cause ? Elisabeth Roudinesco, Catherine Millet.
Quand j'ai relu l'intitulé avant de venir, j'ai quand même révisé un petit peu mes leçons. Je me suis dit, parce qu'en fait, ce n'était pas tellement évident de trouver des exemples parmi les artistes d'aujourd'hui qui traitent d'une manière aussi explicite d'ailleurs que ce qu'on vient de voir, la question de la sexualité, parce qu'il n'y a pas simplement la nudité, il y a aussi la sexualité dans ce qu'on vient de voir. Et donc j'ai fait une plongée dans Art Press, j'ai repris quasiment tous les numéros de l'année passée et je me suis rendu compte que si je regardais un peu ne serait-ce que les illustrations et qui normalement dans une revue d'art sont assez parlantes, il y avait très très peu de représentations à caractère sexuel.
Ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire d'Art Press, loin de là.
Mais nous sommes un magazine, nous suivons l'actualité.
Donc ça veut bien dire quelque chose.
Ça veut dire quelque chose. Ce quelque chose, je me suis dit, tiens oui, pourquoi ? Mais c'est vrai que Art Press est né dans une époque où il était beaucoup question de liberté sexuelle. Je dirais qu'aujourd'hui, il est plutôt question de liberté de procréation. C'est plutôt ça. Donc c'est pas tout à fait le même usage de la sexualité. Et puis j'ai quand même trouvé quelques... Alors pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a beaucoup d'artistes, disons de jeunes artistes, je ne sais pas, 30 ans, 40 ans, 45, on est encore un jeune artiste, qui sont plutôt tournés vers des questions soit d'ordre social, soit formel. Il y aurait une explication à donner aussi du point de vue de l'histoire de l'art. J'ai juste trouvé deux exceptions parmi justement les gens qui ont alors peut-être quand même déjà pratiquement la cinquantaine. Et j'y ai pensé parce qu'on est ici au musée d'Orsay et que évidemment il y a l'exposition Sade tout près. Si cette exposition avait prévu aussi dans son accrochage, dans sa sélection des contemporains, je pense qu'il y a au moins deux artistes qui devraient y figurer. L'un, c'est Vincent Corpé, qui a relevé ce défi de représenter au travers de, je crois, plusieurs centaines, 600 dessins, pose par pose, position par position, toutes les positions donc décrites par Sade dans les 120 journées. Donc c'est quand même quelque chose, je crois, d'assez exceptionnel dans toute l'histoire de l'art. Et l'autre exemple, ce sont les frères Chapman, qui depuis un certain nombre d'années ont vraiment beaucoup axé leur travail sur des représentations, on pourrait dire, c'est, vous savez, à travers des sujets miniaturisés, des grandes installations comme ça, qui évoquent de manière assez directe des camps d'extermination nazis, sauf que tous les personnages représentés sont des nazis. Hein, c'est des nazis qui s'entretuent entre eux. Ils ont une explication pour ça. Et on voit, on assiste à des atrocités absolues qui mêlent sexualité et mort, quoi, voilà. Donc c'est comme ça. Alors je parle des arts plastiques, je parle pas du cinéma. Je pense qu'il y a beaucoup plus, le sujet est beaucoup plus abordé dans le domaine du cinéma aujourd'hui. Mais voilà, bon, si la question dernière cause des artistes, je sais pas, c'est vraiment un petit carré très, très réduit pour l'instant.
Voilà. Elisabeth Rodinesco.
Moi, je ne pense pas du tout que ce soit la dernière cause des artistes.
C'est pour ça qu'on a mis un point d'interrogation.
Je pense qu'il n'y a pas de dernière cause nulle part, ni en littérature, ni en art. On passe son temps à dire c'est la fin de ça, puis après ça recommence. Donc je crois qu'il n'y a pas de dernière cause. Il n'y a pas... Bon. Alors, par ailleurs, quand je vois cette chorégraphie, pour moi, ce n'est pas le sexe, c'est la nudité. Le sexe, il faut qu'il y ait des actes sexuels, il n'y en a pas.
Il n'y a pas besoin d'avoir d'actes sexuels pour qu'il y ait de la sexualité, Elisabeth Rodinesco.
Non, mais peut-être, mais il faut quand même savoir, il y a sexe et sexe. Donc ça, c'est une représentation de nudité intégrale en chorégraphie. Moi, ça me fait plutôt penser à des scènes de transe. Ce sont des transes, on voit ça dans les danses africaines, on voit ça, mais ils ne sont pas nus, ils sont pas nus, mais presque nus, oui. Et surtout ils sont peints. Là, le côté intégral, c'est en effet des corps nus, avec les parties génitales qui sont de l'homme qui ne sont pas retenues. Ça ne doit pas être très facile de danser comme ça, ça doit faire un peu mal quand même. Pour les femmes aussi, dès qu'elles ont des seins, donc voilà. Moi, ça me fait pas. C'est pas sexuel. C'est pas sexuel du tout. La nudité n'est pas en soi sexuelle.
Non, la nudité n'est pas forcément sexuelle. Ça, vous avez raison. Mais le spectacle de la nudité tel qu'il est montré dans ce spectacle peut appartenir au régime de la sexualité.
Certainement. Je le nie pas. Pas pour moi.
D'accord.
Pas pour moi. Alors maintenant les. La littérature, c'est autre chose, et le cinéma, c'est encore autre chose. Parce que par définition, la littérature peut aussi dire ce qui n'est pas représentable. Sade, le roman de Catherine, mais Sade, c'est évidemment ce qu'il y a de moins représentable, et notamment les 120 journées. Donc je pense que quand on essaye de les illustrer ou de les faire passer au cinéma, c'est impossible.
C'est impossible. Vincent Corpé a réussi à le faire.
Non, mais peut-être, on peut le faire. Mais quand vous lisez vraiment les textes, ce qu'a fait Sade d'ahurissant dans les 120 journées, c'est précisément que les poses, les manières dont ça s'enchevêtre, à mon sens, c'est du discours pur. C'est-à-dire, il se trouve que j'ai bien lu les 120 journées parce que je les avais étudiées dans mon livre sur l'histoire des perversions. Il y a des moments, c'est impossible de représenter les scènes qu'il décrit. C'est-à-dire, visuellement, c'est à mon avis impossible. L'amoncellement, il y a des moments où il peut y avoir 10 personnes qui participent à une série d'actes sexuels. Et je n'ai pas vu ces dessins. Moi, ça m'a toujours paru un peu ridicule de vouloir illustrer. C'est d'ailleurs une des raisons, j'ai pas du tout aimé le film de Pasolini sur les...
Sur,
oui, d'abord parce qu'il y avait un détournement de Sade, au sens que je ne crois pas du tout que Sade préfigure le fascisme, absolument jamais. Sade est le libertin type du 18e qui préfigure beaucoup plus le libéralisme, enfin l'idée de la liberté intégrale du sexe avec l'inversion de la loi. Alors, il y a l'inversion de la loi en ce sens, ça peut préfigurer le fascisme, mais en fait, non, parce que les personnages de Sade sont des libertins qui assument leur inversion de la loi. C'est pas une collectivité, il n'y a jamais de collectivité donc chez Sade. Alors ça c'est un premier point. Et alors quant à la représentation du sexe au cinéma, elle m'a toujours fait problème. Je crois que à mes yeux, pour moi, rares sont les films où la représentation de l'acte sexuel est réussie. D'ailleurs, on cache.
Réussie à quel niveau ? Parce que dans les films pornographiques, elle est réussie.
C'est une. Je parle du cinéma, mm-hmm. pas de la. À mon sens, c'est assez rare. Je crois que Chéreau a réussi. À certains moments, il y a des scènes admirables dans c'est Intimité, je crois. Dans La Reine Margot, on ne voit pas, mais on voit. Voilà. Et puis, il y a Antonioni, bien sûr, dans un de ses derniers films. Il y a quelques cas où c'est réussi. Mais je pense qu'au cinéma, j'ai plutôt tendance aujourd'hui à me dire j'aimerais mieux qu'on ne voit plus rien. Voilà. C'est-à-dire que
alors qu'on voit de plus en plus.
Oui, alors je reste attachée.
Chez Adèle Exarchopoulos, par exemple, chez Lars von Trier.
Voilà, moi j'ai une passion pour le cinéma hollywoodien à cause du code de la censure qui faisait que ça a donné les films d'Hitchcock. C'est-à-dire, le fait de ne pas avoir le droit de montrer, on suggérait encore plus des scènes incroyables. En fait, Hitchcock montre les scènes d'amour et de sexe comme des scènes de meurtre, les scènes de meurtre comme des scènes d'amour, etc. Et donc là, l'imaginaire est poussé jusqu'au bout. Enfin, je crois qu'on ne peut pas faire mieux dans l'imaginaire de la chose. Alors, je crois que quand le cinéma finit par montrer les actes sexuels, les crimes, une espèce d'état comme ça, alors il faut se rattraper sur une esthétique, parce que ça peut pas être le réel absolu. Hein. Voilà, je le dirais comme ça.
Qu'est-ce que ce serait alors qu'une scène de sexe réussie, comme vous dites, au cinéma, Elisabeth?
Je pense que la chose la plus difficile au monde, c'est de montrer, c'est-à-dire de représenter des actes sexuels. Je pensais là, en le disant évidemment, au tableau admirable de Courbet.
L'origine du monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est à Orsay.
Donc évidemment, là on a une littérature extraordinaire. Quand on regarde ce tableau, qui est évidemment, pourrait-on le faire aujourd'hui? On sait qu'on a eu ensuite l'origine de la guerre, etc. Mais ce tableau est inouï parce qu'il montre sans montrer. Et puis c'est un tableau, on dirait une photographie. Je crois que là, c'est quelque chose d'admirable. Mais c'est quelque chose d'admirable parce qu'on reste, il n'y a pas d'acte. Hein. On voit un sexe de femme tellement, tellement, tellement réaliste qu'on est obligé d'imaginer qu'il ne l'est pas. Il y a tout un imaginaire autour de ça. Et voilà ce que je...
Catherine Millet, peut-être sur L'origine du monde, parce que L'origine du monde a une histoire particulière avec Art Press. Il a été souvent représenté en couverture. Il était même en couverture d'un des romans de votre époux, qui a été d'ailleurs censuré, parce qu'il a dû retirer ça. Et sur Facebook, par exemple, on ne peut pas le mettre, L'origine du monde. Sur Facebook, ah non.
Sur Facebook.
Ah non, c'est interdit.
Mais quand vous cliquez L'origine du monde, vous l'avez, hein.
Oui.
Sur Internet.
Oui.
Oui, en effet, il y avait eu un roman de Jacques Henry qui avait fait l'objet d'une censure qui était d'ailleurs, il faut toujours le souligner, ça, qui n'était pas une censure d'État. C'est-à-dire que ce n'est pas une commission de censure qui aurait fait interdire l'affichage de ce livre où, en effet, Jacques avait choisi avec l'éditeur de mettre en couverture une reproduction de L'origine du monde. En fait, c'est des associations familiales qui étaient intervenues, comme ça arrive toujours aujourd'hui. C'est la société civile qui demande les interdictions aujourd'hui. Ce n'est pas l'État. Je crois qu'il faut toujours le souligner. C'est très, très important pour mesurer, justement, Eh bien, mon Dieu, la régression de notre société par rapport...
Heureusement que ce n'est pas l'État.
Heureusement que ce n'est pas l'État, mais je trouve...
C'est encore pire que ce ne soit pas l'État, justement.
Moi, je trouve que c'est terrible que ce soit, en effet, des associations qui demandent ça. Bon, ça serait terrible si c'était l'État, mais c'est aussi terrible, à mon avis, que ce soit des associations de particuliers. Et tous les effets de censure, d'ailleurs, ces dernières années dans le domaine artistique sont toujours venus comme ça de... non pas d'une commission de censure, mais d'associations familiales, etc. Bon. Alors, sur l'origine du monde, non, il y a des années, j'ai déjà fait un débat dans la même salle sur l'origine du monde. Donc, j'ai pas envie de re-raconter cette histoire. Et puis, c'est Elisabeth, beaucoup mieux que moi, qui pourrait dire où se trouvait cette origine du monde, chez Jacques Lacan, etc.
Il y a un livre qu'il faut recommander, quand même, Thierry Savatier, qui a fait un livre admirable sur la biographie du tableau, qui est... extraordinaire, voilà.
Manu Farine.
Puisqu'on parlait de crispation, on peut revenir peut-être deux minutes sur l'affaire du plug anal géant installé sur la place Vendôme pendant la dernière FIAC, dégonflé, McCarthy frappé par un passant. Qu'est-ce que vous en avez compris, les uns et les autres,
hein? Nous, on n'a pratiquement rien fait sur cette affaire.
Dans Art Press. Pour quelle raison?
Bon, parce que je trouvais pas ça intéressant. on en a débattu d'ailleurs entre nous. Et puis c'est Anaël Pijat, notre rédactrice en chef, qui finalement s'est peut-être le plus intéressée à ce sujet. Je crois qu'elle l'a mentionné dans le compte-rendu qu'elle a fait de l'exposition de McCarthy à l'Hôtel de la Monnaie, mais finalement sans plus. Et je pense que c'est aussi parce que, voilà, Anaël a, je ne sais pas, 35 ans, que c'est une jeune génération, et que des choses comme ça, elle les voit pour la première fois. Alors, les vieux de la vieille comme moi, ou les vieilles de la vieille comme moi, on en a vu d'autres, si j'ose dire. D'abord, moi, ce que j'ai pensé, c'est que tout le monde était à sa place dans cette affaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les institutions culturelles sont très heureuses de montrer leur ouverture d'esprit en invitant un artiste très provocateur, y compris au plan sexuel. Cet artiste donne dans la provocation, donc il dresse comme ça, plus ou moins masqué d'ailleurs, il faut dire, un énorme objet sexuel au milieu d'une des places les plus prestigieuses de Paris, et que ça énerve quelques-uns au point que l'un d'entre eux lui donne une claque. Franchement, moi, je viens d'une époque, là aussi, où on s'en prenait dans la figure beaucoup plus gravement. Donc, tout ça m'a paru un peu de l'amusement. Et je répète, tout le monde était à sa place, les institutions prouvant leur politique très, très libérale d'accueil des avant-gardes, l'artiste faisant de la provocation, et une petite, mais toute petite partie du public réagissant mal, parce que, par ailleurs, la campagne de presse qui s'en est suivie, c'était pour soutenir McCarthy.
Oui, mais ce qui change, c'est qu'elle a été enlevée, quand même, cette pièce. C'est ça, la différence.
Alors qu'elle est exposée partout ailleurs et rien ne se passe jamais.
C'est parce qu'en fait, c'est comme ça. Enfin, on l'a dégonflé, c'était peut-être compliqué de le regonfler, puis il a choisi de ne pas le faire. Non, franchement, pour moi, c'est pas une affaire très intéressante. Voilà.
Non, c'est le degré zéro de la connerie. On n'en peut plus, quoi. C'est aucun intérêt. Voilà. Ce truc n'a rien de scandaleux. Il n'y a rien de plus académique que ça. Il n'y a rien de plus ridicule que les protestations contre ça. Il n'y a rien de plus ridicule que de mettre ça place Vendôme. Donc, on trouve tout ridicule. Enfin, moi, personnellement, je veux bien me battre.
Ah non, mais on ne demande pas de vous battre pour ça.
Non, je veux bien me battre
pour
la liberté absolue qui est de l'art. Là-dessus, je suis catégorique, je pense. Toute forme de censure, ça ne va pas. Mais je suis aussi favorable à cette liberté absolue, de façon à ce qu'on ait ensuite la possibilité de critiquer l'œuvre elle-même. Et pour ça, il faut la liberté. Si ensuite on est obligé de défendre un artiste qui est censuré, je le ferai. On le fera toujours. Mais alors ça nous empêche aussi de juger le contenu de l'œuvre. C'est pour ça que d'abord la liberté absolue de création, et ensuite on peut intervenir.
Catherine Millet.
Oui, non, je voulais juste ajouter quelque chose, c'est que cette histoire de plug anal, En fait, McCarthy, il aurait pu choisir de mettre autre chose, Place Vendôme. Par exemple, il a fait des œuvres où on voit Pinocchio en train de sodomiser, je ne sais plus, un petit cochon ou je ne sais pas quoi, ou autre chose. Bon. Et il n'a pas choisi ça, hein. Il a choisi un pleuganal qui ressemblait à un arbre de Noël. Bon, donc je crois qu'il a aussi mesuré son geste. Moi, j'aurais plus eu envie de le soutenir s'il avait mis le Pinocchio en train de sodomiser le petit cochon.
Oui, pardon, ce que vous dites, Catherine Mies, c'est que vous l'auriez soutenu s'il y avait du sexe. Mais pas pour un truc
voilà,
ridicule.
Vous voyez. D'accord.
Mais moi, je vais plus loin.
Catherine.
On soutient... Pardon.
Elisabeth Rydinesco.
On ne soutient pas quelque chose parce qu'il y a du sexe. Il faut soutenir aussi la critique esthétique, la critique artistique. Donc il faut qu'on se donne tous les droits de la possibilité de la critique du contenu ou de l'appréciation du contenu. Mais ça suppose en effet qu'on est déjà au-delà de la question de la censure.
Olivier Dubois.
Ouais, mais je crois que c'est aussi. Enfin, je trouve que c'était volontairement mis en place aujourd'hui avec ce jeu de pouvoir qu'il y a entre cette notion de vrai public qu'on entend un peu partout, qui est, et je suis voilà, c'est effarant et on est enfin affligeant. Mais je trouve que c'est ça qui a été joué en fait. Ce n'est pas l'œuvre en elle-même, c'est pas sa portée, c'est pas son choix, c'est pas la lecture, c'est pas malheureusement l'approche artistique a été complètement éloignée. C'était de toute façon ce qui était posé et c'est toujours ce rapport de force et même entre ces institutions, je trouve, publiques et le public, le passant, le regardant. Et à mon avis, c'était surtout le regardant qui était déjà tout de suite pointé, mis en lumière. Et c'était donc déjà, on annonçait le soulèvement et tout ça, enfin du moins le rejet, pas le soulèvement, le rejet. Et ce qu'on trouve aujourd'hui dans beaucoup d'œuvres et dont, par exemple, je vais dire tragédie, et c'est là où, en revanche, la notion de sexualité, elle est présente. Parce que le corps est sexué et sexuel. Mais ça, c'est un extrait.
Pas forcément. Hein.
Parce que ça, c'est une, la tragédie, c'est une heure et demie. Donc là, c'est juste un extrait de la chose. Mais juste pour dire, là, c'était pas du. Je trouve qu'on est aujourd'hui, on navigue sans arrêt sur ces questions de ce droit, je dirais presque de ce. C'est pas un droit de censure, c'est presque un droit de. Une sorte de diktat artistique comme ça qui est donné au regardant. Et ça, c'est plutôt inquiétant pour moi.
Justement, Catherine Millet, vous disiez tout à l'heure qu'en regardant les derniers numéros d'Art Press et en regardant son iconographie, qu'elle était peut-être moins sexuée ou moins sexuelle. Est-ce que ça serait signe qu'au fond, il y a moins nécessité politique ou esthétique à représenter le sexe ou à parler de sexe ou davantage d'autocensure ?
Moi, j'ai l'impression que ça n'intéresse pas les artistes en ce moment. Voilà. Je répète, je parle pour le domaine des arts plastiques. Je trouve qu'ils sont, si j'ose dire, branchés sur autre chose, quoi. Alors peut-être qu'il y a un effet que justement, ils estiment que les générations qui les ont précédées ont beaucoup usé de la représentation comme ça, sexuelle. Et que ça a été, c'est vrai, une grande préoccupation. Comment on peut représenter l'acte sexuel ? Je suis d'accord que, enfin avec Elisabeth, que c'est difficile à relever comme défi, mais voilà, il y a des artistes qui justement ont eu envie d'essayer de se confronter à l'impossible ou au quasi impossible, quoi. C'est un geste avant-gardiste d'une certaine façon. Bon, et que ça intéresse moins aujourd'hui les artistes plasticiens, peut-être parce que. C'est plus difficile pour eux de répondre, justement, c'est plus risqué dans une époque où quand même le marché est extrêmement dominant et il faut savoir que les jeunes générations subissent indirectement une pression du marché qui est extrêmement forte, voilà. Je veux dire qui commence à l'école des beaux-arts, quoi, hein, où on prend conscience du poids du marché de l'art. Donc, ça peut aussi, disons que ça ne favorise pas les sujets risqués. Voilà, parce que moi-même, je suis en train de penser à ça. J'ai une œuvre de Vic Muniz chez moi. C'est un artiste que j'aime énormément et qui avait fait, vous savez, c'est quelqu'un qui fait des représentations sur des petits
des petites surfaces en utilisant des tas de matériaux très, très différents. Ça peut être de la poussière, ça peut être des chewing-gums, ça peut être du sirop, du chocolat, etc. Et il avait fait toute une série, puis il photographie et il agrandit cette représentation et ça a des effets très, très réalistes. Il avait fait toute une série à caractère sexuel, comme ça. Et donc, j'ai chez moi une œuvre qui représente une fellation et tout d'un coup, je suis en train de me dire, mais je l'ai accroché dans la chambre à coucher. Je ne l'ai pas accroché dans le salon. Bon, et voilà. Et il faut se dire ça aujourd'hui où il y a cette pression du marché et que une représentation de fellation, vous ne l'accrochez pas comme ça, comme un compotier chez vous. Quoi.
Bah, c'est étrange d'être éliminé parce que justement, on reproche toujours à Jeff Koons d'être un artiste de marché et d'avoir fait le coup de la Cicciolina justement pour alimenter le marché comme si le sexe faisait vendre. Et vous dites exactement le contraire.
Oui, alors, l'histoire, Jeff Koons, c'était il y a longtemps. Hein.
Oui, dans les années 80.
Jeff Koons, voilà, 10. C'était du temps où Jeff Koons était, de mon point de vue, un artiste intéressant. Que lui aussi, comme ça, il avait, il relevait certains défis et ce jusqu'au boutisme de sa relation avec la Cicciolina, d'abord la personnalité même de la Cicciolina et le fait de s'être fait photographier dans l'acte sexuel. Nous, on avait fait aussi, on est récidiviste, on avait fait une couverture avec une de ses photos. Alors. Bon, dans le cadre de l'actuelle rétrospective en ce moment au Centre Georges Pompidou, il y a une salle, en effet, où il y a des photographies agrandies, où on les voit dans une relation explicitement sexuelle. Robert Storr, qui a écrit l'article pour Art Press, et je crois qu'il avait raison de le souligner, je l'ai relevé aussi dans l'édito, remarquait que cette rétrospective, néanmoins, n'incluait pas les sculptures faite d'après plus ou moins ces photos.
Posant... Il y a une sculpture en verre, enfin en cristal.
Alors, il y a une petite sculpture en verre qui est vraiment...
Mignonnette.
Mignonnette, on dirait un peu de l'art déco, comme ça, c'est très joli. Moi, je disais à quelqu'un que j'aurais bien aimé emporter cette sculpture. Bon, mais les très grandes sculptures polychromes, donc représentant la même chose que ce qu'on voit grosso modo sur les photos... ne figure pas dans la rétrospective. Alors voilà, on peut se poser la question pourquoi. Est-ce que l'effet de réalisme est peut-être plus important devant les sculptures que devant les photos ? Il faut savoir aujourd'hui que Jeff Koons, je ne suis pas sûre... Alors par exemple, aujourd'hui, je n'aurais pas pu faire ma couverture avec une de ces images. À l'époque, Jeff Koons, quand nous avons fait cette couverture, il n'était quand même pas la superstar qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, en particulier la représentation, la reproduction des œuvres pornographiques est extrêmement contrôlée par le studio, il faut le savoir. Bon. Donc nous n'aurions pas obtenu l'autorisation de faire la couverture aujourd'hui avec avec une de ces images, ça c'est sûr. Voilà. Donc ça aussi, ça doit te donner à réfléchir.
Elisabeth Rodinesco.
Moi, personnellement, quand je regarde une œuvre, je ne m'occupe pas du marché. Voilà. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui dit « j'aime pas ». Il y a des raisons pour qu'on aime quelque chose ou qu'on l'aime pas. Moi, j'attends des choses beaucoup plus nouvelles de là, mais pas forcément dans le sexe. Hein.
Catherine,
on va peut-être être très surpris. Vous verrez demain un peintre qui choisira, par exemple, de ne rien représenter de la sexualité.
Il y en a plein.
Voilà. Oui, mais je crois que la nouveauté, ce qui fait qu'une œuvre fait effraction à un moment donné, c'est pas tant je vais peut-être dire une banalité, c'est pas tant le sujet traité sexe ou pas sexe, c'est la manière de le traiter. Bon. À un moment de l'histoire de l'art, là, on peut être saisi de façon extraordinaire. Pour le cinéma, on sait comment c'est apparu. À un moment donné, les actes sexuels ont pu être filmés, et alors que c'était censuré. Est-ce que le cinéma libéré du code de la censure a été meilleur qu'avant ? Non. Est-ce qu'il a été moins bon ? Non.
Non.
Voilà.
Olivier Dubois, quand vous signez cette pièce, donc, on va dire, sur la nudité de 18 danseurs, mais aussi sur la sexualité, car un corps nu en représentation devient sexuel dans le regard de celui qui en est le spectateur, dans quel mouvement vous inscrivez-vous ? Vous apparaissez sur la scène chorégraphique dans les années 2000, vous êtes danseur chez Yann Fan notamment. Il fout à poil d'ailleurs dès le début dans ses pièces. Alors même que la génération des années 90 en France, tous les chorégraphes apparaissaient nus sur scène. Quel était le travail de la nudité et de la sexualité quand vous arrivez sur la scène chorégraphique, Olivier Dubois?
C'est-à-dire qu'il y a eu, évidemment, voilà, cette époque 80 avec cette explosion de la danse contemporaine française, un peu, je dirais, noyau mondial comme ça, qui a été le berceau pour beaucoup. Et on a cette apparition, je dirais, de corps nus et qui peut-être peut aussi répondre à la question tout à l'heure sur pourquoi aujourd'hui la sexualité... C'est-à-dire qu'on est... Elle est apparue en 90 et 2000, c'est-à-dire à propos. C'est-à-dire qu'on mettait une nudité pour parler, par exemple, de l'épidémie de sida. On parlait de ces choses-là. On parlait de genre, de transgenre. Voilà, c'était à chaque fois, je trouve, avec une associé évidemment à une question, question de société, d'avancée, enfin, une question, je dirais, de l'homme aujourd'hui dans le monde, un peu comme ça, qui n'était pas et qui était rarement, je dirais, alors on oublie les petites virgules arabesques de nudité qu'on pouvait trouver dans les pièces. Et ce qui est peut-être la particularité de tragédie, c'est qu'elle commence et elle termine nue. C'est-à-dire que c'était donc plus un événement. C'est une donne de départ qui ira jusqu'au bout. Et souvent, on a eu, dans les années plutôt 2000, beaucoup d'arabesques un peu emparées avec l'effet un peu provocation, parce qu'évidemment, à partir du moment où vous arrivez, vous dénudez, donc vous exhibez votre intimité. Donc il y a quelque chose à cet endroit-là qui, pour le coup, encore une fois, cette tragédie, ne se passe pas, il n'y a pas d'exhibition, puisque c'est le point de départ. Après, pour ce qui est de l'arrivée, c'est-à-dire qu'on est après, entre 2000-2008, à part certaines écritures comme Yann Fabre, je sais pas, qui sont très, et qui travaille énormément ses corps, ses guerriers de la beauté, ces notions-là qu'il défend, on a une sorte de disparition un peu comme ça pour un corps, je dirais, du coup disparu. C'est qui est ce qu'on a appelé, le courant qu'on a appelé la non-danse, plutôt associé peut-être parfois à l'art plastique ou ça, et qui était un corps vraiment, où, à mon sens, un corps disparu, où l'investissement corporel disparaissait plutôt au profit du propos, de la teneur, de l'absence, ou peut-être, voilà, et où il y avait une chose qui était moins incarnée. La chair a disparu pendant, je dirais, quelques années, même si la nudité pouvait être là. On a par exemple des travaux de Boris Charmatz, par exemple, où le corps nu était là, très, très présent, ou Jérôme Bell, et pourtant, je dirais, l'aspect charnel, l'aspect de ce qu'il fait, et c'est toute la chose pour moi qui est très proche et qui est la sexualité dans la danse, parce que la danse était aussi un acte érotique in extenso comme ça, et c'est l'acte vital, c'est le redressement, c'est aussi le redressement du corps, et cette chose qui est pour moi très très primitive, essentielle, difficilement contournable, mais dans mon approche, dans l'approche que j'ai de la création. Et du coup, je dirais, moi j'arrive en 2000, voilà, alors je portais aussi cette histoire de Yann Fabre pas mal d'années, où il est un peu le trublion comme ça, l'enfant terrible, mais du coup arrive Tragédie en 2012, et il y a cet élan, et je dirais qu'il est presque associé entre un 80 où cette danse, où le corps reprend du mouvement, reprend de l'élan, reprend de la sueur, reprend de l'endurance, et associé peut-être à quelque chose qui serait du coup un peu plus tard dans les années 2000, à cette nudité. Donc là on a la combinaison, c'est peut-être ça, ce Tragédie, c'est-à-dire du coup il y a une sorte de digestion des deux époques précédentes.
Elisabeth Rodinesco, je vous ai vu vouloir intervenir sur le mot de genre qui est apparu. Car en effet, le genre vient brouiller, ou en tout cas décupler, le discours sur la sexualité.
Mais ça va vous paraître bizarre, c'est pas du tout à ça que je pensais.
Ah bon, d'accord.
Je pensais, en vous écoutant et en regardant cette chorégraphie, parce que j'aime beaucoup la danse, ce que je trouve toujours le plus étonnant dans le domaine du théâtre ou de la chorégraphie, c'est quand un chorégraphe ou un metteur en scène repense le répertoire classique en le dynamitant de l'intérieur. Bon, voilà. Chéreau met en scène Wagner, on n'a jamais vu ça, il change complètement avec la même musique. Et j'étais en train de me dire, qu'est-ce que vous feriez si on vous imposait, et on devrait, de mettre en scène le Lac des Cygnes?
J'adorais.
Voilà.
Mais j'ai fait
l'après-midi d'un fois.
J'ai fait, hein, beaucoup.
Je sais pas, ça j'ai pas vu, mais j'aimerais, vous prenez le Lac des Cygnes tel qu'il est, naturellement.
Tel qu'il est, exactement.
Pourquoi pas faire le Lac des Cygnes avec vos danseurs complètement nus? Non, mais pourquoi pas? Je veux dire, et là, moi, ça, vous voyez, ça m'intéresserait beaucoup.
Mais ça, j'ai beaucoup...
J'aimerais bien vous voir sur ça.
Non, mais c'est un peu la marque de fabrique. C'est-à-dire, j'ai travaillé, par exemple, sur l'après-midi d'un faune. J'avais une pièce qui s'appelait Le Faune, qui était une sorte de déclinaison comme ça, je dirais, qui était une mise à mort de Nijinsky pour révéler l'après-midi d'un faune. C'est-à-dire que l'on, enfin, tue l'image et qu'on laisse partir et qu'on se libère l'appropriation qu'on peut avoir sur une œuvre. Le Boléro, Donc 2h15.
Mais le lac des signes, attention.
Mais le lac. Le lac des signes, pas attention. Parce que
Vous respecteriez les pointes, le tout, hein, toute la
chorégraphie. Non, je le digérerais suffisamment pour le secouer dans tous les sens.
Manu Farine.
Est-ce qu'il peut y avoir nudité et donc sexualité sans charge politique? Est-ce que de mettre ces danseurs sur un plateau, c'est aussi un discours politique?
Bien sûr. Un pas sur un plateau est un acte politique. On le veuille pas. Hein. Il y a une prise de parole qui se met en place. Donc, de toute façon, après, elle est à tenir ou pas, elle est à libérer, elle est à développer, ça peut être voilà, c'est un choix qu'on a. Mais je crois que c'est difficilement déjouable. Alors, c'est pour ça que peut-être là, on a eu des endroits de peut-être, et encore non, même pas. Je crois qu'à partir du moment où il y a cette apparition sur un plateau, ça répond aussi au théâtre grec, hein, cette chose-là, cette apparition sur un plateau de ce premier pas est un engagement politique, est une prise de position politique. Après, on peut vraiment se dire oui, l'assumer, la travailler, ou alors peut-être certains préfèrent l'oublier et ne pas le jouer, le mettre en scène, le travailler et l'argumenter, je dirais. Et du coup, ça c'est possible. Mais pour moi, et alors d'autant plus un corps nu, le corps politique exposé comme ça, c'est évident.
Catherine, est-ce que vous pensez justement que du côté des artistes, des jeunes artistes que vous regardez, même s'ils ont 50 ans, la disparition du sexuel serait aussi, d'une certaine façon, la disparition du politique dans leur travail, au vu de votre connaissance de ce qui s'est passé dans l'art?
Non, je pense pas.
Vous ne pensez pas qu'il y ait une dépolitisation en même temps des artistes depuis quelques années, vous qui avez connu une période plutôt effervescente,
oui,
autour du corps?
Moi, j'ai connu aussi, là, il ne faut pas toujours me faire parler comme... Remarquez, c'est moi qui ai commencé, mais comme le témoin de ce qui se passait à l'époque.
mais, à l'époque, c'était à côté.
mais c'est vrai, c'est vrai que comparé aux années 70, où c'était le tout politique, on est un peu en retrait par rapport à ça. Et finalement, moi, je trouve que c'est plutôt mieux. Voilà, il ne faut pas se gargariser non plus. Je ne suis pas sûre que je vous suivrai en disant que dès qu'on met un pas sur la scène, d'une certaine façon, certes, on est dans le politique. Moi, je serais un peu plus exigeante pour ça. La société a beaucoup évolué depuis cette époque du tout politique quand même. Et il y a certains combats, certes, qui restent à mener, mais d'autres, finalement, je veux dire... On n'aurait jamais imaginé, on vient d'évoquer l'affaire McCarthy, elle s'est quand même déroulée dans un cadre institutionnel, je le répète, ça c'était pas imaginable à une certaine époque quand les artistes manifestaient, défilaient dans la rue, etc. C'était parce qu'ils voulaient aller occuper les institutions, que les institutions n'en voulaient pas. Maintenant les institutions les accueillent à bras ouverts. Donc non, quand même, il y a des choses, des luttes qui étaient à mener, qui ne sont plus à mener. Je pense que ça s'est un peu déplacé chez les artistes, ils s'intéressent à autre chose. J'évoquais tout à l'heure l'attention au social de certains artistes. C'est plus l'attention, en effet, au social qu'au politique, je crois. Voilà. Ils vont regarder ce qui se passe du côté de certaines marginalités, des choses comme ça. Mais ce n'est pas avec un discours explicitement politique, au sens où on l'entendait auparavant. D'abord, je crois qu'ils lisent plus, Marx et compagnie. C'est fini, ça.
Olivier Dubois.
Mais ce n'est pas dans ce sens-là. Enfin, ouais, à mon sens, c'est vraiment... De toute façon, il y a cette question politique puisque c'est une adresse qui est lancée. La création est une adresse. Donc, à ce moment-là, elle devient politique, évidemment, pas avec des portées 70 et autre chose. Je pense qu'on est bien éloigné de ça, complètement. En revanche, les questions de société ou sociale, moi, m'inquiètent plus parce qu'on est dans le commentaire. C'est-à-dire, peut-être que je suis un rêveur, ou je sais pas, mais j'ai l'impression que commenter l'aujourd'hui... déjà, je parle d'une vieille époque. Et non, prétention de dire, mais j'essaie d'ouvrir des champs de questionnement. Et donc, je n'en ai pas la réponse. Donc, je provoque. C'est là où ça devient politique, c'est que ça provoque la réflexion, la pensée, le dialogue et l'échange. Et c'est là où c'est politique. Et qu'en revanche, m'inquiéter de questions sociales, environnementales et autres soucis de genre, moi, par exemple, je ne sais pas quoi, comment, je ne peux. Ça voudrait dire qu'on attendrait de moi une réponse. Et ça, je suis incapable.
Catherine Millet ?
J'aurais bien aimé revenir un petit peu en arrière. Décidément, c'est mon rôle ce soir. dans la conversation cette fois, parce que je trouvais très, très intéressant ce que disait Elisabeth tout à l'heure à propos de Sade. Essayons de garder le niveau. Et voilà, elle disait qu'il se passait quelque chose dans la langue qui ne pouvait pas se passer dans l'image. Je ne sais pas si je serais aussi radicale, bien sûr, que des choses peuvent être décrites qu'il est très très difficile de représenter, ce qui ne veut pas empêcher qu'on, ce qui doit pas empêcher qu'on s'y essaye quand même.
Ça, on a tous les droits, hein, de représenter ce qu'on veut.
En même temps, quand on réfléchit à ce qu'est la langue de Sade, c'est une langue quand même extrêmement descriptive. C'est une langue qui nous fait venir justement des images ou des tentations d'images dans la tête. Bon. Et j'ai presque envie de dire la preuve de ça, c'est le rapport de Sade au théâtre, par exemple. Bon, il nous décrit des postures, des positions. C'est impossible de le lire, évidemment, sans chercher l'image. Et moi, je reste quand même. C'est difficile de dire des choses comme ça, mais à peu près certaine que l'image a un pouvoir d'effraction plus grand que la langue, Elisabeth, je crois. Pour celui qui appréhende l'œuvre, pour le lecteur, pour le spectateur, je pense que l'image a une puissance d'effraction plus grande que la langue.
Elisabeth Rodinesco.
Oui, probablement aujourd'hui, quand ça décrivait, il y avait la peinture, mais il n'y avait pas le cinéma quand même. Quand on lit la langue de Sade, il y a autre chose. D'abord, Sade est un auteur du XVIIIe siècle. Donc, il y a une langue absolument incroyable de libertin sophistiqué qui décrit des scènes ahurissantes dans le langage le plus de mélange, de la plus exquise politesse avec la plus violente pornographie imaginable. Donc là, la langue compte. Je crois que pour Sade, c'est évident. Il paraît d'ailleurs, tous les spécialistes, que c'est unique au monde. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Sade dans aucune autre culture. Seul Sade, et il a été universalisable de ce point de vue-là, a réussi cette chose extraordinaire, qu'on peut comparer peut-être à ce que Joyce a fait avec Finnegan's Wake, hein, c'est-à-dire une chose unique, et notamment les 120 journées. Ça n'existe pas. Aucune littérature pornographique, érotique, etc. n'est arrivée à ce degré de langue. Je pense que c'est aussi parce qu'il est français. Parce que...
Quel est le lien que vous faites ?
La langue française du XVIIIe siècle s'y prêtait particulièrement. Voilà. Donc, on sait que Sade, en tout cas... Je crois aussi que le cas Sade est unique. Il a été en prison sous trois régimes différents. Voilà. On ne pouvait pas... Bon. Sous l'Ancien Régime, bien sûr, pendant la Révolution, il est sorti à un moment, puis ensuite on l'a mis chez les fous parce qu'on ne savait pas quoi faire de Sade. On voyait bien qu'il n'était pas fou, hein, c'est comme ça d'ailleurs qu'on a élaboré la notion même de perversion. Il n'était pas fou, mais on se disait c'est fou d'inverser la loi à ce point. Donc Sade va à Charenton. Bon. Et le truc le plus extraordinaire, c'est qu'à Charenton, il pervertit tout, c'est-à-dire il rend les fous plus fous. Hein, les fous ne veulent plus de Sade. C'est extraordinaire la vie de Sade. Et à la fin, on ne sait plus quoi faire de Sade. Ce que j'adore avec Sade, il est inintégrable, insymbolisable, irreprésentable.
Irrécupérable.
Voilà. Irrécupérable. Et alors après, bon, toute son histoire, on a examiné son crâne. Enfin bon, je vous laisse. Et en plus, il est universel. Ça a donné de l'universel à partir du particulier, d'une langue très particulière du XVIIIe siècle, et surtout de trois régimes politiques différents. Aujourd'hui, Sade, qu'est-ce que ce serait ? Il aurait le droit de faire tout ce qu'il fait, pratiquement.
Non.
Non.
Ah, eh bien dites-moi, la seule chose dont il n'aurait pas le droit, c'est de fouetter des personnes. Mais tout ce qui sont les actes sexuels entre adultes consentants, c'est-à-dire les trois quarts du temps, c'est exactement ce qu'il fait, je parle de sa vie, hein. Pas de ce qu'il décrit. Un écrivain aujourd'hui a le droit d'écrire tout ça, tout ce que Sade a écrit. C'est pas de ça que je parle. Mais dans sa vie, qui serait-il aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il ferait, Sade? Est-ce qu'il pourrait écrire une œuvre pareille avec justement le fait que ce qu'il a fait dans sa vie est aujourd'hui aux trois quarts permis, hein? Je pense que c'est complètement ridicule de faire aujourd'hui de Sade avec un anachronisme, un pédophile ou un... C'est pas du tout ça. Ce qu'il a fait dans sa vie sous les trois régimes était presque licite, hein, puisque aujourd'hui les lois ont changé. Donc 35 ans de prison pour voilà. Mais en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que Sade est allé en prison essentiellement pour ses écrits. Or aujourd'hui, ses écrits sont dans la Pléiade, qu'on le veuille ou non. Donc je reviens à l'idée que c'est quand même la langue, la subversion de Sade, elle est dans la langue. Alors quel serait l'équivalent au cinéma d'une telle subversion? Bon, il y a eu l'Empire des Sens quand même, il ne faut pas l'oublier. Là, on a eu un film inouï. Moi, je dirais d'ailleurs que les Japonais ont assez excellé dans la représentation. J'ai adoré l'Empire des Sens, qui me faisait penser bien sûr à Genet. Donc, il y a eu des moments très grands de représentation du sexe, de la mort, de l'acte sexuel, de la folie des corps au cinéma. Les Japonais, je dirais, on fait des choses.
Catherine Millet.
Il n'y a pas très longtemps, je me suis trouvée dans un panel comme ça. Il a été question de Sade et j'ai entendu des discours, des diatribes anti-Sade. Alors évidemment, du point de vue de la loi, à nouveau, répétons-le, Sade pourrait faire aujourd'hui beaucoup de choses qu'il a faites, les écrire, les publier aussi. Bon. Mais il ne faut pas oublier, les féministes, les anti-prostitutions, les prohibitionnistes dans le domaine de la prostitution, tous ces mouvements aujourd'hui pour qui Sade est vraiment une horreur, qui attaque Sade. Moi, j'ai entendu des gens à cette table à laquelle je participais partir en guerre contre Sade, qui savait pas, se conduisait très mal avec des jeunes prostituées, etc. Enfin bon, voilà, donc il faut quand même garder ça
non, mais
en tête.
Bon, hein. Ça, c'est un peu bête. Pas d'anachronisme. Sade et Sade, laissons-le là où il est. Pourquoi? Pourquoi la question du sexe, et là ça devient politique, la question du sexe fait toujours scandale, et elle fera toujours scandale. C'est récurrent, auprès probablement de tous les puritains. Donc c'est même la mesure du paradigme du puritanisme. S'offusquer contre ça d'aujourd'hui, il n'y a rien de plus ridicule. Voilà. Il faut combattre pour les femmes, pour l'émancipation des femmes, pour tout ce qu'on veut, pour que ce soit qu'il y ait plus de droits, plus d'égalité, mais pas brandir Sade comme effigie, ça n'a pas de sens, voilà. Ça c'est un peu stupide quand même.
Alors comment comprendre qu'aujourd'hui la sexualité, la nudité, tout ce discours autour est pris en charge non plus par les arts plastiques, manifestement, mais plutôt par une partie du cinéma, je pense à De la tête quichiche ou à Lars von Trier, au prochain film de Gaspar Noé, ou
Steve par McQueen, le spectacle... Steve McQueen a fait un très beau film.
Exactement, oui. Ou par le spectacle vivant. Comment on peut comprendre ce déplacement, d'après vous, Catherine Millet?
Actuellement, le cinéma est en train de prendre en charge ce que les arts plastiques ne prennent plus en charge, je crois. Voilà. Et qu'il y a une liberté formelle aujourd'hui dans le cinéma qui permet d'aborder un certain nombre de thèmes d'une façon nouvelle, originale, intéressante, etc. Je connais moins le spectacle vivant, alors c'est pour ça que j'en parle pas. Mais dans le domaine de ce rapport cinéma et art plastique, moi je trouve que le cinéma prend en charge un certain cinéma, bien sûr, mais c'est pas forcément un cinéma comme on disait à l'époque underground. C'est vraiment un cinéma qu'on voit en salle. Steve McQueen, on le voit en salle. Chéreau, on le voit en salle, etc. Donc il y a un cinéma qui s'adresse à un public assez large et qui prend en charge des questions qui sont plus prises en charge par les arts plastiques. Voilà, je crois que le cinéma a absorbé beaucoup de formes, une liberté formelle qui vient sans doute, certainement même des arts plastiques, et que ce faisant a absorbé aussi certaines thématiques.
Olivier Dubois, pourquoi le spectacle vivant, théâtre et danse aujourd'hui prend en charge véritablement cette politique des corps et même un discours sur la sexualité, d'après vous? Est-ce que c'est par le fait que, par exemple, la performance est quelque chose qui a contaminé le théâtre et la danse contemporaine?
Je ne sais pas si la performance a contaminé. Je crois que ça, évidemment, les choses se répondent, mais le corps étant la matière première.
Oui, mais pendant longtemps, le corps a été caché au théâtre et dans la danse.
Je ne pense pas qu'il ait été caché dans la danse, parce que si on revient dans les années 20, 30, on avait des corps complètement libérés, galopant dans les champs, que ce soit chez les Américains, les Allemands, donc on avait, et les Suédois, il y avait vraiment beaucoup de tentatives, alors je ne sais pas si de libération, mais du moins d'un autre corps, peut-être. Et je ne sais pas, alors après, ce qui est intéressant, c'est tout à l'heure ce qui a été évoqué, cette question de marché de l'art. Et évidemment, c'est une donne que l'on n'a absolument pas. Dans le spectacle vivant, absolument pas. On est presque en regard des arts plastiques et même du cinéma. Nous sommes des artisans. C'est-à-dire, on est avec donc l'artisanat libère complètement. Et il y a toujours de la bricole. Et donc la bricole est un grand espace de liberté que l'industrie ou le marché ou du coup le grand nombre du coup écrase un petit peu.
Merci à vous.
D'un cône sur un piédestal et puis cela a une forme qui rappelle aussi un sextoy.
Merci à nos invités Catherine Millet, Elisabeth Rudinesco, Olivier Dubois. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain,
je suis né ici, à Notre-Dame-des-Lacs, au Québec. Mes parents s'occupaient du magasin général. C'est dans cette maison-là que j'ai grandi.
Demain, il faudra attendre lundi, et lundi, ce sera Bande dessinée et Québec. On retrouvera le format normal du rendez-vous avec Jean-Louis Tripp et Régis Loisel. Là, des annonces, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, format table ronde, une émission préparée par Manu Farine, Aïssatou Endoy et Hippolyte Babilote, à la réalisation Olivier Guérin, à la prise de son Bernard Legac, Frédéric Cayrou et Hervé Dubreuil, chargé de production Franck Malabry. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours ou la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.
Vous écoutez France Culture, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée et bon week-end à tous.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec Entrée Libre sur France 5.